cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 1er novembre l'an 2000 à Saint-Gaudens.
Bonne fête de la Toussaint. Et pour honorer la fête de la Toussaint, nous continuons à chercher la vérité. Parce que c'est par là que la terre s'approche du ciel. Et tout ça, c'est la grande fête du ciel. Et c'est la fête du ciel en même temps qu'il déborde sur la terre. Et comme c'est l'anniversaire de la proclamation de l'Assomption, c'est une fête très spéciale pour nous, cette année-ci. Et il ne faut pas oublier que le démon se déchaîne et voulait se déchaîner durant cette nuit vis-à-vis des enfants. C'est la première année, c'est la première fois qu'il y a officiellement une lutte directe contre les tous, contre la sainteté. C'est l'alliance avec le démon. Alors ça se fait sous un mode de propagande, de rire. C'est tout à fait le point de vue du démon. Et on fait une alliance avec le démon par les enfants. C'est le pire, la chose la plus terrible. Et c'est sous un mode humoristique, tout simplement, des bonbons, la fête des enfants, la joie des bonbons. Et on demande une alliance avec le démon. C'est quand même quelque chose de très grave au point de vue de l'économie divine. Si on se place de ce point de vue-là. Et c'est le point de vue qu'on doit regarder. La conduite de sagesse de Dieu et en même temps cette conduite du démon qui, pour la première année, dit officiellement alliance avec lui. Veut l'alliance avec lui. Alors, je crois qu'on doit être très attentif à ça. On sait que la Sainte Vierge a la victoire, mais on est sur la terre, en plein dans la bagarre. Alors continuons cette recherche de la vérité. Le sommet, il faut bien voir ça, hein, le sommet de la connaissance humaine, c'est cette induction dans l'être de la découverte de l'acte. Alors, c'est pas étonnant, c'est un peu essoufflant pour nous. Parce que la preuve de l'existence de Dieu, ce n'est pas, vous voyez, dans quel sens, c'est capital pour nous. C'est la conséquence immédiate de cette recherche. Ce n'est que grâce à la découverte de l'acte qu'on peut découvrir l'acte suprême, l'acte en tant qu'acte. Dieu, l'être premier, est nécessairement acte pur, energeia pur. C'est comme une application extrêmement importante, capitale pour notre vie. Mais il n'y a pas de nous, il y a une nouvelle découverte dans notre jugement. Il est nécessaire qu'il y ait un être premier, qu'on appelle Dieu, qu'on nomme Dieu, c'est... Tandis que l'induction découvre le principe, découvre l'être en acte. Et l'intelligence, là, accomplit son ultime pénétration dans l'être, son ultime connaissance dans l'être. La preuve de l'essence de Dieu est une conséquence extrêmement importante, capitale pour notre vie. C'est sûr que notre intelligence puisse affirmer l'existence de Dieu, c'est pour notre vie morale, notre vie humaine, quelque chose de merveilleux, quelque chose de capital. Et elle le fait grâce à cette découverte-là. Dans la mesure où notre intelligence a saisi dans cette induction la nécessité, le caractère propre de l'être en acte, immédiatement après, nous pouvons découvrir qu'il existe nécessairement un être acte pur. C'est pour ça que c'est très difficile pour notre intelligence. C'est pas étonnant que c'est difficile. C'est pas étonnant que beaucoup d'entre vous voient difficilement. Alors il faut s'appuyer. Il faut se dire oui, il y a là quelque chose de très important. Et il faut y réfléchir longuement, souvent. C'est vous qui découvrez ça, c'est pas moi. Moi, je le découvre pour moi. Je ne peux pas le découvrir pour vous. Enfin, c'était ce vieux professeur dominicain, le père Dehaut racontait toujours ça. Ce vieux professeur dominicain, quand il enseignait la philosophie, disait « Mes chers frères, je veux bien vous exposer la vérité, mais je ne vous donne pas l'intelligence. » C'est très juste. C'est soi-même, chacun d'entre nous, qui devons faire cet effort suprême. Et l'intelligence vit grâce à l'induction. Parce qu'on passe du sensible, de ce qu'on peut décrire, à la saisie d'un principe, ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Qu'est-ce qui est premier? C'est l'acte. C'est un super premier, en quelque sorte. Le premier, c'est la substance. C'est déjà difficile, c'est pas commode, mais c'est relativement facile comparativement à l'acte. C'est relativement facile parce que notre intelligence est premièrement habituée à passer de papa à homme. Ça a l'air de rien, ça. Vous l'avez tous fait. Hein. Vous n'avez peut-être pas été attentif à ça, mais vous pouvez l'être maintenant. Il y a un jour où votre intelligence est passée de papa à homme. Papa singulier, cet homme qui était devant vous, singulier, qui vous était relié d'une façon très spéciale, puis vous avez compris, ensuite, homme, c'est abstrait. Et précisé, homme, corps et âme. Et vous avez vu que toutes les réalités qui était comme papa, semblable à papa, c'est homme. Et l'intelligence à pousser jusqu'au bout, en voyant la différence de papa, qui est un singulier, homme, qui est universel. Tous les deux sont premiers et exigent un premier dans l'être, la substance. C'est le premier dans les déterminations dans l'être. Tandis que l'acte, c'est le premier ou le dernier, premier ou dernier, dans ce qu'est l'être, au-delà de la détermination, plus que la détermination, l'exercice, un exercice finalisé, entelekaya, un exercice finalisé, et cet exercice finalisé réclame l'acte, qui est le principe. Et nous le saisissons en constatant ces états particuliers, l'état d'imparfait ordonné à un état parfait. Ça peut se décrire, ça. Et comme ça se retrouve partout, dans toutes les dimensions particulières que je peux constater, l'être, la vie, l'intelligence, je retrouve toujours ce même ordre entre un état imparfait et un état parfait. C'est donc l'être qui, en lui-même, se réalise de deux manières, dans une manière parfaite et dans une manière imparfaite. D'une manière parfaite, l'acte, manière imparfaite, la puissance. Et je saisis alors, au-delà de ces états, l'être en acte. Vous voyez, c'est l'ultime pénétration que j'ai dans l'être, l'être en acte. Il n'y a rien au-dessus. Et en dessous, il y a la potentialité. Comment dépasser la confusion qu'on peut faire entre l'être en acte, principe, et l'acte d'être, le fait d'exister. Comment dépasser la confusion? Faites attention, c'est pas une confusion. Tout de suite, le fait d'exister, ce que nous allons voir, le fait d'exister, pour nous, c'est la première réalisation de l'être en acte. Donc ce n'est pas une confusion, c'est simplement une purification. Mais là, le fait d'exister, ceci est, c'est capital. Si vous ne dites plus ceci est, vous ne pouvez pas saisir l'acte. Si vous supprimez le ceci est, le jugement actuel de ceci est, vous ne saisissez pas l'acte. Vous idéalisez et vous faites à la manière de Platon. L'acte en soi. L'acte en soi, c'est évidemment pas le fait d'exister. Mais si vous ne tombez pas dans le platonisme, le point de vue de l'être en acte est présent dans l'être, dans le fait d'exister. Mais il n'est pas saisi dans sa pureté. Il est saisi dans son mode. Nous allons voir ça tout de suite après. C'est bien, l'objection est intéressante et importante. Comment comprendre l'affirmation d'Aristote quand il dit que l'acte est antérieure à la puissance par rapport à l'expérience, ce qui nous montre que la puissance est en vue de l'acte. Oui. Parce que je saisis des états imparfaits et des états parfaits. Ça, je peux le décrire. J'en ai conscience. Donc là, la phénoménologie peut nous aider. Et en faisant grande attention. Hein. Parce que souvent, la phénoménologie, quand on commence la phénoménologie, on reste dedans. C'est captivant pour l'intelligence. La phénoménologie a quelque chose de captivant. Parce que on est maître. On est maître. Tout est à partir de ce qu'on connaît, du connu. Le connu, il est mon avoir. Donc la phénoménologie demeure dans l'avoir. Et c'est pour ça que la phénoménologie, elle gonfle. La grenouille qui veut devenir grosse comme le bœuf, elle gonfle. Elle nous gonfle, nous sommes mesure de toutes choses. Si on part de ce qui est connu et qu'on revient toujours à ce qui est connu, on risque de ne jamais le dépasser. Mais elle a quelque chose d'intéressant, c'est que je peux en effet comprendre que toute ma vie profonde, point de vue de l'intelligence, comme le point de vue de la volonté, de l'amour, c'est toujours l'état parfait, l'état d'imparfait. Mais quand le Saint-Père reprend la parole de Catherine de Sienne, sois ce que tu dois être. Point de vue de la vie, je comprends très bien. Sois ce que tu dois être. Ce que tu dois être, c'est le parfait, tu ne l'es pas encore. Ce que tu es, tu le sais très bien. Tu sais ton imperfection. Mais tu dois être quelque chose de plus parfait. Donc, au-dedans de nous-mêmes, nous avons bien ça. Ces deux états. Et chacun d'entre nous, nous pouvons saisir ça. Si vous ne le saisissez pas, ça prouve que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Vous êtes, vous, un mélange de ce qui est et de ce qui doit être. Et toujours, quand vous voulez progresser, vous constatez qu'il y a un abîme entre ce que vous devez être et ce que vous êtes. Vous devez être un saint, mais vous n'êtes pas actuellement. Hein. Vous ne seriez plus un noviciat si vous étiez saint. Mais vous êtes promu à la sainteté. Vous êtes candidat de la sainteté. Vous êtes capable de la sainteté. Mais vous ne l'avez pas encore. Ça, c'est ce que vous devez être, saint. Je ne dis pas canonisé. Il ne faut pas chercher d'être canonisé. Parce que c'est trop délicat. On croirait que déjà on est dans une... On a une auréole autour de la tête, et on doit nous vénérer. On doit nous encenser trois fois. Vous savez bien qu'on n'a pas encensé en religieux. Bon, à la messe liturgique, toujours, on l'a fait. J'ai eu envie de dire au brave Thierry Emmanuel, mais non, vous vous trompez. Ce que je vois doit être, oui, mais pas ce que je suis. Donc ça, on peut comprendre ça, et on doit le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, ça prouve qu'il y a quelque chose en vous qui manque. Vous n'avez pas de désir. Et c'est grave. Pour avoir de désir, on ne pousse pas. Soyez comme des enfants. Comme l'enfant, c'est toujours demain. Demain. Demain, je serai grand. Demain, je rattraperai tous ceux qui sont autour de moi. Je serai plus grand qu'eux. Demain. Si vous n'avez pas en vous ce désir-là, vous ne pourrez pas croître. vous resterez des petits nains. Heureux de la taille que vous avez. C'est un danger perpétuel, hein, il ne faut pas... Matériellement, c'est plutôt rare de désirer d'être un petit nain, c'est ennuyeux, mais spirituellement, ça existe beaucoup, les petits nains. Ils sont stabilisés. Taille moyenne. Taille comme tout le monde. Je peux passer à travers toutes les portes. Et autour de moi, on trouve que c'est très bien. Le démon cherche à ce qu'on soit des nains au point de vue spirituel. Et si on n'est pas très attentif, on restera comme ça. C'est pas mal. Je ne tue personne. Je ne fais pas de mal. Je respecte la justice. Je fuis. Alors c'est la justice, vous voyez. Ce n'est plus la miséricorde. Dès que vous êtes dans la miséricorde, vous êtes noyé. Quand vous restez dans la justice, vous avez un terrain stable. Là, pouvez-vous revenir sur la distinction qu'Aristote fait entre entelekeia et energeia, avec quelques exemples si possible. Je vous ai donné l'amitié. C'est l'exemple le plus merveilleux. Vous aimez votre ami Pierre. Vous aimez votre ami Pierre. Entelekeia. C'est vous. Vous possédez l'entelekeia. Mais si vous réfléchissez, pourquoi aimez-vous Pierre? C'est Pierre qui vous attire. C'est Pierre qui a suscité en vous cet amour de lui. Il vous a possédé. Et lui, energeia, il est l'acte. Bon, vous pouvez là aussi tous comprendre cette distinction. Je crois, si vous êtes un petit peu lucide en vous-même, dans votre amour, l'amour que vous avez pour Pierre, ce n'est pas Pierre, c'est vous. C'est l'amour que vous avez pour Pierre, c'est votre richesse, entelekeia. Vous êtes dans votre fin, dans la mesure où Pierre est votre fin, votre ami. Et Pierre, il est la fin qui suscite cet amour. Il a suscité cet amour. Il a été fin pour vous, energeia. Voyez, c'est que Platon, il idéalise l'amour. Et donc il confond l'amour et le bien. Et vous avez l'amour en soi. Le bien en soi. Pour distinguer cela, Aristote invente entelekeia et energeia. C'est merveilleux. Oui, alors, ce qui est terrible, c'est que entelekeia et energeia se traduit en latin actus. Le même mot. Vous condamnez tous ceux qui parlent latin de ne plus faire la distinction entre entelekeia et energeia. C'est une langue juridique, le latin. Alors c'est ceux qui voudraient que la vie religieuse, ce soit tout simplement le droit canon. Vous êtes parfait dans votre vie religieuse si vous respectez parfaitement le droit canon. Mais non, le droit canon est un garde-fou. La perfection est autre chose que le droit canon. Vous voyez l'aspect juridique. Et c'est très curieux. C'est très curieux de remarquer que le latin, saint Thomas, traduit Aristote, ou plus exactement, le traduit pour lui. Alors la scolastique prendra acte ou premier, acte second. Et vous comprenez, ça ne dit pas la même chose. Hein. Acte ou premier, acte second, c'est, il y a une continuité. Entelekeia et Energeia expriment deux points de vue très différents. Un avoir et l'être. L'avoir ne sera jamais être. L'être peut devenir avoir, mais l'avoir ne rejoindra jamais l'être. Alors si vous voulez, prenez ça, être et avoir. C'est un exemple. Et l'exemple d'amitié, vous pouvez prendre encore la différence entre ce que je vous ai dit plus d'une fois, l'oraison du petit chat en face du feu et l'oraison et la contemplation de l'aigle. Le petit chat se retourne sur lui, comme c'est agréable d'être avec Jésus. Je l'aime, je l'aime. C'est agréable d'être, je l'aime. Personne ne vient me chercher, je vous prie. Ne me dérangez pas. Laissez-moi tranquille. Je me réchauffe. Intérieurement. Et puis, le vol de l'aigle, tout entier tendu vers l'absolu. Il monte toujours plus haut. Il sort de lui. L'amour est extatique. Donc, il nous fait sortir de nous pour contempler, pour regarder Dieu. Energeia. Mais l'amour vient de moi. Entelekeia. Il y a deux choses dans l'amour. L'amour vous qualifie et l'amour fait sortir de vous. Et très facilement, nous restons dans l'amour qui nous qualifie, tellement agréable. La définition que donnait le père de Ménas quand j'étais novice avec lui, et qu'on le permette, il était absent. Il donnait cette définition de la vie commune, deux mains qui se frottent. C'est très agréable quand il fait froid. On se chauffe. Mais au bout d'un certain temps, la peau s'use. Alors ça devient très douloureux. Et si on pousse os sur os, alors ça devient effrayant. Vous voyez là, Entelekeia, je regarde la vie commune par rapport à moi. Je ne vois pas ce que c'est que la vie commune objectivement. J'aime mon frère. Je sors de moi pour l'aimer. Je suis dans un état extatique. J'aime le prochain qui est pour moi l'envoyé de Dieu et qui me dépasse. Marie, devant l'ange Gabriel, est toute troublée parce que elle voit l'envoyé du Père. Vous voyez, la vie commune, vous pouvez la vivre Entelekeia et vous la vivre Energeia. Vous pouvez la vivre par rapport à vous ou comme c'est agréable. Je suis avec des gens qui sont remarquablement intelligents. C'est merveilleux. Ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Je suis avec eux. je vis la même vie qu'eux. C'est très enrichissant, ça. Votre vie commune, elle est très riche. C'est très enrichissant. Alors, vous voyez comment la vie commune vous enrichit. Entelekeia. Deux mains qui se frottent. Il fait froid, ça me réchauffe. Mais si je pousse, c'est pas toujours commode. Parce que celui qui est beaucoup plus avancé que moi, beaucoup plus perfectionné, beaucoup meilleur que moi, il me fait sentir qu'il me dépasse. Et la vie commune, c'est pas drôle du tout, c'est toujours d'être avec quelqu'un qui m'étouffe. Parce que dans la vie commune, il y a toujours le voisin qui m'étouffe, qui me remet en place. Regarde-toi. Parce qu'on n'a pas compris que la vie commune, c'est la charité fraternelle, cette sortie de soi. Voyez donc, entelekeia, energeia, très important. Aristote a inventé le mot entelekeia, entelos, eia, ekein. Donc, entelos, dans la fin, l'avoir. L'ayance, dans l'avoir. Dans, l'ayance, dans la fin. Entelekeia. Oui, c'est un avoir parfait, puisque c'est un avoir dans la fin. L'avoir dans la fin, c'est l'avoir le plus parfait qui soit. C'est un avoir qui me stabilise. Tandis que energeia, c'est l'acte. C'est quelque chose qui me transcende. C'est quelque chose qui est ma fin. C'est la fin. Voilà ces exemples pour entelekeia, energeia. Là encore, vous voyez, Aristote a inventé deux mots, quiddite, energeia. Quiddite, entelekeia. Intraduisible en français, entelekeia. Intraduisible en latin, puisqu'on dit actus. C'est juste, mais c'est la distinction alors entre entelekeia et energeia disparaît. Et c'est grave, voyez, parce que vous jugez l'amour d'une façon purement subjective pour vous. Cet amour me donne de la chaleur au cœur, donc c'est très bien. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la sortie de vous. L'amour est extatique. On va vers l'autre et on se donne. Dans energeia, on ne se donne pas, on possède. Alors, dans le même ordre d'idées, pouvez-vous nous commenter ce passage du Peripsuches, mais l'entelekeia est prise en deux sens, soit comme la science, soit comme l'exercice actuel de la science. La science, puisque la détermination est antérieure à l'acte, tout acte a une détermination. C'est la science. Et l'exercice de la science, c'est entelekeia. La science, comme habitus, c'est une détermination, une qualité. L'amour vous qualifie. C'est une qualité. Et l'amour implique la science en exercice. Il est donc clair que l'âme est entelekeia au même titre que la science. Par le fait d'être animé, comporte les deux états de veille et de sommeil. La veille correspond à l'exercice de la science, le sommeil à la possession de celle-ci sans l'exercice. Merci, bonne fête. Alors, je prends merci, bonne fête, c'est la sainteté, hein, puisque c'est la fête de tout ça. La sainteté, c'est la même chose. La sainteté est une qualité et la sainteté est un exercice. Vous pouvez considérer la sainteté comme un avoir. Le saint va circuler. Et vous avez conscience de votre sainteté. Vous restez sur vous. Vous ramenez l'acte à la détermination. Parce que la détermination est impliquée dans l'acte. Mais l'acte est plus que la détermination. Vous voyez, vous avez trois états, si vous voulez, pour que vous compreniez bien quand vous parlez de la science. La science habitus, est une détermination de votre intelligence. Votre intelligence est perfectionnée par la science mathématique. Elle est perfectionnée par l'habitus de sagesse, de métaphysique. Vous avez l'exercice, entelekeia, et vous avez la vérité que vous contemplez. La vérité, vous ne la possédez jamais, mais vous êtes possédé par la vérité. Parce qu'elle est intelligente pour l'intelligence, la vérité. C'est la vérité qui vous rend intelligent. Si vous cherchez la vérité, vous êtes intelligent. Et donc la vérité vous rend intelligent. La vérité est l'acte dernier dans l'intelligence. C'est l'être. La réalité être. Vous la possédez dans l'habitus et vous l'exercez. Vous voyez, alors en latin, on devrait mettre, hein, si je restais dans la scolastique, trois actes. L'acte de la science, l'acte de l'exercice, l'acte de energia, celui qui est source de l'énergie. En remettant simplement acte premier, acte second, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, il y a trois actes. Il y a l'acte détermination, l'acte qualité et l'acte exercice. Exercice, vous voyez, l'acte qualité, l'habitus, l'acte exercice et l'acte source de l'exercice. Enfin, en soi. C'est très très net pour la contemplation. Donc l'habitude de sagesse, c'est très net. Vous avez l'habitude de sagesse, c'est le plus grand des biens. Le livre de la sagesse le dit. C'est le plus grand des biens. Vous avez l'exercice de la sagesse. Quand vous voulez contempler, et Dieu qui est celui que vous contemplez. Alors, essayez de comprendre ces trois états dans votre perfection à vous et que vous pouvez, je crois, assez facilement distinguer. Ce qui montre que la distinction que fait Aristote entre entelekeia et energeia est très importante. Et que, en regardant le latin, vous risquez de confondre. Et peut-être que, historiquement, ça a eu beaucoup d'importance. Ce passage du grec au latin, le latin qui d'habitude est toujours très précis, là, confond. L'avoir et l'être, c'est très ennuyeux. Et là, confond. Je ne dis pas que nécessairement tous ceux qui parlent latin font la confusion, parce que la pensée est au-dessus des mots. Donc je peux employer le même mot pour deux réalités différentes. Et ces réalités différentes, je les ai comprises. Mais pour les transmettre, c'est très difficile quand c'est le même mot. C'est pour ça que je prends Aristote. Parce que le grec, là, nous donne deux mots différents pour bien distinguer l'état de l'avoir et puis ce qui finalise. Tout cela nous aide à comprendre ce que représente l'induction. Je passe de l'entelecheia à la saisie de l'energeia. L'entelecheia, je peux le développer en phénoménologie. Je peux le développer. Je ne dis pas dans la phénoménologie, dans sa pureté, puisqu'il y a la mise entre parenthèses de l'être. Or, entelecheia implique l'être. Donc, voyez, faire attention. En pure phénoménologie, celui qui serait le purisme de la phénoménologie, on regarderait l'entelecheia sans son enracinement dans le sujet qui est. Celui qui aime Pierre, il existe. Et la phénoménologie met entre parenthèses l'exister. Il ne regarde que un exercice sans exister. Ça, c'est pas commode. Et c'est ce qu'ils font. Mais je peux décrire, alors là, indépendant de la phénoménologie, décrire mon amour pour Pierre et comprendre que cet amour que j'ai pour Pierre, ce n'est pas Pierre. Que cet amour que j'ai pour Pierre me perfectionne. Que cet amour que j'ai pour Pierre est quelque chose qui peut me donner une certaine perfection. Et que, avant cet amour que j'ai pour Pierre, j'étais capable de l'aimer, mais je ne l'aimais pas encore. Je peux décrire ces états différents. Et je fais le dépassement. Comment se fait ce dépassement? Parce que c'est ça qui est important. Il se fait grâce à l'interrogation. N'oubliez jamais que l'âme de l'induction, c'est l'interrogation. Qu'est-ce que c'est qu'une interrogation? La scolastique n'a jamais posé de savoir ce que c'était qu'une interrogation. Puisque la scolastique prenait la philosophie à partir de la théologie. Donc il n'y avait pas d'interrogation. Si au contraire je cherche, un chercheur sait très bien ce que c'est que l'interrogation. Puisque c'est l'interrogation qui conduit, qui dirige sa recherche. il reviendra toujours à, cette, à son interrogation, dans sa plus grande pureté. Un chercheur vit de l'interrogation. L'interrogation, c'est dans l'intelligence le désir de la vérité. C'est quelque chose que je possède, mais que je possède mal. Je ne peux pas interroger quand je ne possède rien de cette connaissance. Mais quand je possède quelque chose de cette connaissance, je peux interroger. Or, nous avons fait la première induction de la substance. Nous possédons donc déjà quelque chose dans l'ordre de l'être, la substance. Et possédant que la substance, je me pose la question, est-ce que la substance est ultime? Est-ce qu'elle est la finalité de l'être? Ou n'est-elle pas la finalité de l'être? Oui. Donc je me pose la question, je veux savoir ce qui finalise, en vue de quoi l'être? Ce qui finalise l'être, ce qui dans l'être est ultime, dernier. J'ai déjà une connaissance de la détermination de la substance. Ayant cette connaissance, je veux aller plus loin, je veux connaître ce qu'il y a d'ultime dans l'être, sa finalité. Oui. Or, c'est cette interrogation-là en acte qui permet à l'intelligence d'avancer. Quand il n'y a plus d'interrogation, l'induction n'existe plus. Oui, et c'est pour ça que c'est si délicat, l'induction, parce que l'induction dépasse toute logique. La logique ne dit pas grand-chose sur l'induction. Très peu. Parce que c'est le désir de l'intelligence. Mais le désir de l'intelligence, ça ne se dit pas en logique, ça. C'est l'appétit de l'intelligence. Une intelligence qui progresse, elle a un désir. Elle veut connaître. Si elle n'a pas cette volonté de connaître, d'aller plus loin, je m'arrête devant la difficulté et je reste. Et je resterai alors en face uniquement de l'état parfait et de l'état imparfait. Il restera en face de ça. Si je veux dépasser ce point de vue descriptif et toucher l'être pour atteindre ce qu'il y a de finalité dans l'être, alors à ce moment-là, je suis très attentif à ces deux états et la continuité qu'il y a entre ces deux états et la rupture qui peut exister entre ces états. Je peux alors comprendre que l'état de perfection peut être libre de l'état d'imperfection, tandis que l'état d'imperfection est toujours lié à l'état de perfection. Et ça, c'est très important de saisir ça, parce que ce n'est que comme ça que je saisis l'acte premier. Autrement, je reste dans la relation. L'état imparfait, l'état de perfection, ils sont en relation. Mais cette relation, elle existe dans ma première connaissance de l'état de parfait et d'état de perfection. Mais en réalité, si je regarde le fondement de l'être, de ces deux états, je m'aperçois que l'état parfait est indépendant de l'état imparfait, qu'il existe avant qu'il ait. Tandis que l'état imparfait n'existe qu'en fonction du parfait. Donc, il y a cette première détachement, ce premier regard sur l'état de parfait qui est très important pour dépasser la relation de ces deux états et entrer dans l'absolu de l'être. Et l'absolu de l'être, c'est justement l'acte qui est en lui-même, indépendamment de l'imparfait.